Apocalypse, chapitre 7, versets 13 et 14. Puis, un des anciens prit la parole et me dit, « Ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Et je lui dis, « Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui sont venus de la grande tribulation et qui ont lavé leurs robes et ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. » Bonjour à tous, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous avons une méditation très intéressante, très importante et tout à fait adaptée au moment que nous sommes en train de traverser, encore une fois. Vous vous rappellerez, si vous avez contemplé cette méditation précédente, que nous avons étudié, ou nous sommes arrêtés sur les perspectives de rédemption pour la génération Internet, sabbat dernier. Et nous avons vu que nous pouvons avoir ces perspectives. Et nous pouvons avoir cette espérance. Et nous avons vu que, en ces derniers temps, où le livre de Daniel serait ouvert et pourrait être compris, et où la connaissance augmenterait, et où ceux qui reçoivent cette connaissance en seraient purifiés, nous avons vu que, en cette période-là, il y aurait bel et bien un peuple qui serait qui traverserait à travers la connaissance et la sagesse de Dieu une épreuve de purification. Et comme c'est écrit, nous allons y retourner brièvement pour reprendre le fil dans Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12 et verset 10. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés, mais les méchants agiront avec méchanceté, et aucun des méchants ne comprendra, mais les intelligents ou les sages, comme c'est écrit autre part, les sages comprendront. Et cela aura lieu quand les paroles que Daniel a écrites et qui étaient cachées et scellées serait décelé au temps de la fin. Donc, bel et bien ce temps dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous traversons ces derniers battements de ce temps de la fin, de cette dernière période qui introduit ou qui précède le retour physique et glorieux de Jésus-Christ. Et donc, frères et sœurs, pour aller directement en parallèle et en aide au moment que nous traversons aujourd'hui, dans le monde, des moments troublants, des événements bouleversants qui bouleversent à la fois les hommes et l'économie. Eh bien, nous voulons garder à l'esprit que la parole de Dieu dans tout cela, la parole de Dieu nous donne une vision des événements dans le monde, elle nous donne une vision par laquelle les choses qui sont pour les autres une calamité et une cause de désespoir peuvent être pour nous une source de réjouissance et d'espérance. Ces choses qui sont un sujet de désespoir, eh bien, pour les autres, ceux qui ne plongent pas leur regard dans la parole de Dieu qui est l'incarnation de Jésus-Christ, ces choses qui sont pour eux un sujet de désespoir peuvent être pour nous, si nous la recevons comme il se doit, une source de réjouissance et d'espérance. Nous voulons explorer tout l'aspect pratique de ces déclarations-là que je vous présente. Et pour nous, à plus forte raison, pour nous, Adventiste du septième jour. Les désastres, les déceptions et les épreuves en tout genre ont un but bien précis. Dieu a un but à l'esprit dans tout cela, dans toutes ces choses qu'il permet. Parce que rappelez-vous, Dieu est toujours souverain sur le trône du ciel. Dieu est toujours souverain. Donc quoi qu'il arrive, cela est permis. Et donc quand nous voyons ces choses paraître et se présenter à nous, eh bien nous avons deux options. Celle de l'incrédulité, de la rébellion, de l'insoumission et de l'esprit de révolte, de se révolter face aux choses qui nous sont insupportables, ou de saisir dans notre cœur, comme nous l'avions vu sabbat précédent, dans Proverbes chapitre 4, de saisir dans notre cœur la parole de Dieu pour être rapproché de Dieu par ces calamités, plutôt que d'être éloigné de Dieu par ces choses-là, qui éloignent les hommes de Dieu parce que ils ne courent pas vers lui dans leurs difficultés, mais ils courent dans la direction opposée de là où ils se trouvent. Et donc c'est ce que nous voulons apprendre tangiblement à ne pas faire. Et nous voulons apprendre à faire l'inverse. Et donc, en harmonie avec notre lecture biblique, maintenant, nous voulons nous concentrer tout particulièrement sur un peuple. Un peuple qui nous est présenté dans la parole de Dieu comme étant ce peuple-là qui traversera ces expériences-là et qui en ressortira vainqueur. Parce que beaucoup de personnes traverseront dans une certaine mesure ces expériences-là. Mais seul ce peuple-là en sortira vainqueur. On nous le présente dans Apocalypse chapitre 14 et verset Apocalypse chapitre 14 verset 1 et ensuite verset 4 et 5. Je regardais ensuite et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avait le nom de son Père écrit sur leur front. Verset 4. Ce sont ces 144 000-là, ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges, ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille, ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu, et pour l'agneau. Et il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche, car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. Voilà un peuple. Voilà le peuple qui vit sous le dernier message visant à préparer la voie pour le retour de Jésus, le message des trois anges, car si vous continuez au verset 6 jusqu'au verset 13, etc., vous avez la description de ces messages des trois anges, parce qu'il s'agit de trois messages qui constituent un message entier. Au verset 6, nous le savons, jusqu'au verset 7, vous avez le message du premier ange. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. C'est un ange qui vole dans le ciel portant l'évangile éternel qui représente le peuple qui a ce message à présenter et à proclamer au monde. Et le verset 8 nous présente ce deuxième message qui vient en résultat du rejet du premier message par les églises protestantes. Cette activité-là, cet accomplissement parfait là a eu lieu à la suite de la proclamation du premier ange par William Miller et ses acolytes. Et ensuite, en conséquence de ce rejet, nous avons l'esprit de prophétie qui nous déclare que 50 000 croyants sont sortis des églises et se sont réunis pour poursuivre la proclamation de ce premier ange dans l'attente de l'accomplissement, selon leur compréhension d'alors, des paroles de Daniel chapitre 8, verset 14, dont ils attendaient l'accomplissement en voyant la terre purifiée, parce qu'ils comprenaient que le sanctuaire faisait allusion à la terre. Bien entendu, nous savons qu'il y a eu le grand désappointement au 22 octobre 1844, après que Jésus ne soit pas revenu sur la terre de manière physique comme il s'y attendait. Et après cela, nous avons au verset 9 jusqu'au verset 13 le message du troisième ange. Parce que après ce grand désappointement, eh bien, certains ont lâché prise de l'espérance qu'ils avaient que Jésus revienne et ont abandonné le message auquel ils avaient cru et ont mis de côté toutes ces prédictions prophétiques, ces compréhensions de la prophétie. Mais il y en a certains, un très petit nombre, qui se sont agrippés à ce message et n'ont pas voulu le laisser partir quand bien même ils avaient été profondément déçus. Et ils ont continué à sonder la parole et ces personnes-là se sont réunis et ont examiné et sondé attentivement les Écritures. Vous avez les pionniers de l'Église adventiste, les premiers adventistes du septième jour. Ces personnes-là, vous avez Ellen White, vous aviez James White, vous aviez Joseph Bates, qui était l'un des premiers à observer le sabbat, avec une personne avant, je crois que c'était une certaine Sarah. Et ces personnes-là se sont réunies, ont étudié la parole de Dieu et ont été guidées par les visions que Dieu a données à Sir White dans le témoignage de ce que nous connaissons comme le témoignage de Jésus en harmonie avec les paroles de Apocalypse chapitre 19. Et donc vous avez tous ces trois messages-là qui sont les messages de ce peuple-là qui nous est présenté comme étant les 144 000. Et donc vous avez un peuple qui nous est décrit par deux caractéristiques ici. Nous voulons en relever deux surtout. Un peuple qui nous est décrit par deux caractéristiques distinctes. D'une part, le nombre, et d'autre part, la condition spirituelle. Alors le nombre, c'est simple, vous le savez. Ils sont 144 000 personnes, comme c'est écrit dans la Bible Osterwald, même si ce mot est ajouté, mais ce mot communique bien la réalité. Ce sont 144 000 personnes à partir du début du scellement en 1848. J'avance un peu, mais c'est parce que ce sont des choses que sur lesquels il faut que nous fondions notre foi en tant qu'adventistes du septième jour. Ce sont des vérités qui nous ont été proclamées, qui nous ont été présentées, qui ont été confirmées par le témoignage de Jésus. À partir de cette date de 1848, lorsque la compréhension du sabbat a pour la première fois été appliquée dans la vie de ces croyants-là, jusqu'à aujourd'hui et au-delà, vous avez cette période du scellement. Et ces personnes qui sont scellées, et qui sont ces personnes des trois anges, et que l'on voit ici au verset 1 à 3 comme étant finalement vainqueurs, ce sont les 144 000. C'est leur nombre. C'est une des caractéristiques de ce peuple-là que Dieu nous présente. Ce n'est aucun homme qui présente ces choses-là, qui affirme ces choses-là. Dieu le dit lui-même dans sa parole. Et verset 4, nous lisons leur condition spirituelle. Premièrement, ils sont vierges. Donc bien sûr, il s'agit d'une expression figurative, parce que ces personnes-là, beaucoup d'entre eux ont eu des femmes, ont eu des enfants. Il ne s'agit pas de cela. C'est une expression qui met en avant le fait qu'ils ne se sont pas souillés avec les églises protestantes qui constituent Babylone. Parce que d'ailleurs, ces personnes-là constituent ce peuple qui proclame, qui a proclamé et qui proclame encore ce message du deuxième ange. Babylone est tombée. La première fois que Babylone était tombée, entre guillemets, c'était Ça aurait été une expression de l'Église catholique romaine. Cette Babylone-là était déjà tombée. Mais ici, vous avez une expression où cela est répété deux fois pour montrer qu'il y a une répétition de la chute ancienne de cette Rome papale. Et ce peuple-là, ce sont des vierges. Ils ne se sont pas souillés avec ces églises déchues qui suivent, qui marchent dans les traces de pas de l'église de Rome en enseignant la sainteté du dimanche et l'immortalité de l'âme. Ces personnes-là, ces 144 000, ne se sont pas souillées avec ces corps ecclésiastiques-là. Que lisons-nous de plus à leur sujet vis-à-vis de leurs conditions spirituelles? Nous lisons qu'ils suivent l'agneau où qu'il aille. Et donc, vous avez encore une expression figurative parce qu'on ne les voit pas suivre un agneau où qu'il aille. Parce que ce serait impossible. Donc, vous voyez bien que c'est figuratif et cela parle bel et bien du fait qu'ils suivent de très près l'exemple de Jésus. De la même manière que vous vous rappellerez que Jean-Baptiste, quand il vit pour la première fois Jésus, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et donc c'était une des premières expressions qui tendait vers cette signification-là que le croyant est appelé à contempler cet agneau-là, Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il est Emmanuel, Dieu avec nous. Il est Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Celui qui est avec nous dans la chair de péché, qui est venu nous donner un exemple de victoire. Et donc ce sont des personnes qui suivent Jésus de cette manière, qui suivent cet agneau, où qu'il aille, ou quel qu'ait été son exemple sur la terre, c'est ce qu'ils suivent. Ils suivent cet exemple. C'est leur condition spirituelle ultime. À la toute fin, ce sont ces personnes-là, c'est ce qui les caractérise. Parce que ici, nous voyons cette description là où nous lisons, Apocalypse chapitre 14, verset 1, que nous les voyons tels qu'ils sont sur la montagne de Sion. Quelle est cette montagne de Sion? C'est la nouvelle Jérusalem. Donc nous les voyons tels qu'ils sont à la fin. Et comment suivent-ils l'agneau où qu'il aille également? Eh bien, ils suivent l'agneau qui est aussi la parole, comme nous le lisons dans Jean chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Donc il s'agit bien ici de cette parole qui est le Fils, et l'agneau est Jésus. Et l'agneau est la parole. Et donc, ils suivent la parole où que la parole les conduise. C'est leur condition spirituelle. Parce qu'ils ne suivent pas l'exemple des églises apostates et déchues, protestantes. Ils suivent la parole où qu'elle aille. Quand bien même cette parole peut être en contradiction, et l'est souvent, avec les enseignements de ces corps religieux. Quoi d'autre ? Nous lisons que il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. Ils sont finalement sans tache devant le trône de Dieu. Ils ont suivi à la lettre le commandement de Jésus dans Matthieu chapitre 5 verset 48 où il disait et il nous dit « Soyez donc quoi ? Parfaits. Comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. » Ils ont atteint cette perfection-là. Ils l'ont atteint. Nous les voyons sur la montagne de Sion avec l'agneau, c'est 144 000, et ils ont atteint cette perfection. Ils sont sans tache devant le trône de Dieu. Qu'est-ce qui nous montre cela aussi? Ils ont écrit sur leur front le nom, qu'est-ce que c'était marqué exactement? Ils ont le nom de son Père écrit sur leur front. Quel est son nom? C'est son caractère. Comme de la même manière que Jésus, Son nom, c'est son caractère, c'est qui il est. Emmanuel, quand bien même il n'eut pas réellement ce nom de la manière dont on l'entend, c'est son nom. C'est aussi son nom. Il a plusieurs noms. Il s'appelle aussi Michael, le chef des anges. Mais on ne l'appelait pas comme ça sur la terre. On l'appelait Jésus. Eh bien, le nom du Père, c'est son caractère. De la même manière que le nom de Jésus, cela représente qui il est. C'est son caractère. C'est sa mission envers nous. Eh bien, ces personnes-là, ces 144 000, ont le nom du Père écrit sur leur front. Ils sont parvenus à cette perfection. Et maintenant, j'aimerais vous poser la question, et nous nous posons la question pour pouvoir poursuivre. Ces personnes-là, comment en sont-ils arrivés là? Parce que nous les voyons tels qu'ils sont finalement, sur la montagne de Sion, cette nouvelle Jérusalem littérale, cette cité de Dieu, que nous voyons dans Apocalypse chapitre 21, descendre du ciel, comme une mariée, je crois. J'ai pas envie de dire de bêtises. Et moi, Jean, 21, verset 2, « Et moi, Jean, je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une nouvelle mariée qui s'est ornée pour son époux. » Donc ces 144 000, à la fin, ils se tiennent sur cette montagne de Sion. La montagne de Sion, c'est en Israël, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la nouvelle Jérusalem. Et ce peuple-là, comment en est-il arrivé là? Nous avons deux possibilités. Sont-ils devenus subitement parfaits, comme par magie au retour de Jésus? Est-ce comme cela qu'ils sont devenus, comme ça, parfaits, ayant en leur front le nom du Père, le nom du Père? Ce n'est pas leur propre nom, leur propre caractère, c'est le nom du Père, quoiqu'il ait préservé leur individualité. Sont-ils devenus subitement parfaits? Ont-ils été transformés comme par magie, par le doigt de Dieu, au retour de Jésus? Jésus est-il venu avec une baguette de magie pour les transformer à la toute fin? N'était-il pas parfait avant qu'il vienne? C'est l'enseignement qui nous est proposé par la majorité des églises aujourd'hui. C'est que nous ne pouvons pas être parfaits ici-bas, mais nous pouvons faire notre mieux, et ensuite, quand nous mourrons, ou quand nous sommes ravis, parce que c'est aussi un des enseignements de l'Église, des églises protestantes, lorsque nous mourrons ou lorsque nous sommes ravis vers le ciel, eh bien alors nous sommes transformés. C'est comme ça qu'ils comprennent 1 Corinthiens chapitre 15. Mais nous savons que telle n'est pas la signification des paroles de Dieu vis-à-vis de ce sujet-là. Et la deuxième question, donc, c'est est-ce qu'ils ont plutôt traversé un processus particulier pour finalement arriver à cette condition de perfection comme Dieu est parfait? Nous allons dans Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7, versets 1 à 4. Nous dirigeons vers notre lecture biblique ici, mais il faut l'introduire pour avoir le contexte. Apocalypse chapitre 7, verset 1. « Après cela, je vis quatre anges qui se tenaient aux quatre coins de la terre, retenant les quatre vents, afin qu'aucun vent ne soufflât ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Puis je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient, tenant le sceau du Dieu vivant, et il cria à grande voix aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer, en disant « Ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués. Quel est leur nombre? 144 000 marqués d'entre toutes les tribus des enfants d'Israël. Et ensuite, ça fait la liste du verset 5 au verset 8 de toutes les tribus. 12 000 de chaque tribu, sauf les tribus qui ont été sorties. Vous avez Éphraïm et Dan. Et ensuite, verset 13. Puis un des anciens prit la parole et me dit, ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Et je lui dis, Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui sont venus de la grande tribulation et qui ont lavé leurs robes et ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et ils le servent jour et nuit dans son temple. Et celui qui est assis sur le trône étendra sur eux son pavillon. Ah, qu'est-ce que nous avons lu? Chapitre 14, verset 5. Qu'ils sont sans faute devant le trône de Dieu. Et ici, nous avons le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils se sont ainsi trouvés devant le trône de Dieu dans cette condition spirituelle-là de perfection, d'irréprochabilité? Pourquoi? C'est parce que ils sont venus de la grande tribulation et ils ont lavé leur robe et ont blanchi leur robe dans le sang de l'agneau. Et cela nous renvoie directement à ces paroles de Daniel chapitre 12 verset 10 où nous lisons que plusieurs seront purifiés et blanchis. Ils seront purifiés et blanchis. Et comment? Parce que ces personnes-là sont intelligents. Ils sont intelligents. Comment? Ils suivent l'agneau où qu'il aille. Comment? Ils suivent la parole et les témoignages, qui sont le témoignage de Jésus. Ils ont lavé leur robe et ont blanchi leur robe dans le sang de l'agneau. J'aimerais ici utiliser l'esprit de prophétie qui nous aide beaucoup à bien cerner le sens de ces paroles-là, de l'inspiration, pour qu'il n'y ait aucune ombre de doute ou d'incertitude. Je me tourne ici vers le conseil à l'Église, à la page 271 et au paragraphe 1 à 2. C'est maintenant, que nous et nos enfants devons nous séparer du monde et nous garder sans tâche. C'est maintenant que nous devons purifier nos robes de caractère et les blanchir dans le sang de l'agneau. C'est maintenant. Écoutez bien, frères et sœurs. Qu'est-ce que cela veut dire de purifier nos robes et de les blanchir dans le sang de Jésus, de l'agneau? Qu'est-ce que cela veut dire en pratique? C'est maintenant que nous devons vaincre l'orgueil, la colère ou l'emportement, l'indolence spirituelle. C'est maintenant que nous devons nous réveiller et faire résolument des efforts pour arriver à l'égalité du caractère. C'est très intéressant, frères et sœurs. Ici, vous avez cette expression qui met en avant à notre esprit le fait que nos caractères sont inégaux, asymétriques. Nos caractères sont asymétriques. Et donc, Dieu veut porter de la symétrie dans nos caractères. Et c'est comme cela que il donne du sens à l'expression que nous devons purifier nos robes de caractère et les blanchir dans le sang de l'agneau. Qu'est-ce que nous devons faire?
Il nous faut vaincre l'orgueil, notre orgueil. Il nous faut vaincre la colère, l'emportement. Il nous faut vaincre cela. Il nous faut vaincre quoi d'autre? L'indolence spirituelle, ce désir d'être fainéant dans ce qui a trait à notre vie spirituelle, d'être fainéant vis-à-vis de notre progression spirituelle, de notre marche spirituelle. L'indolence spirituelle, l'orgueil, la colère, c'est maintenant qu'il nous faut vaincre cela. C'est maintenant que nous devons nous réveiller et faire résolument des efforts pour arriver à l'égalité du caractère. Elle cite « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Hébreux chapitre 3, versets 7 et 8. Donc nous avons ici une expression, on ne peut plus claire, du sens de ce lavage des robes et ce blanchissement des robes des 144 000 dans le sang de l'agneau. C'est une activité à laquelle ils prennent part, dans laquelle ils s'engagent. Et si nous devons, d'ailleurs, il y a une déclaration de l'esprit de prophétie qui dit, nous devons nous efforcer avec toute la force que Dieu nous a donnée d'être parmi les 144 000. Donc nous sommes appelés à cela. Nous sommes appelés à faire partie de ce peuple qui se retrouve finalement sur la montagne de Sion avec l'agneau, avec Jésus. Et nous apprenons que c'est comme cela, c'est pour cela, c'est à cause de cela qu'il se trouve finalement devant le trône de Dieu et qu'il le sert jour et nuit dans son temple. C'est parce qu'il ils ont lavé leur robe. Ils sont sortis. Ils sont venus sortis de la grande tribulation. Ils en sont venus. Ils en sont sortis vainqueurs. Parce qu'ils ont participé à cette activité-là à laquelle Dieu les appelle. Et nous sommes ces personnes-là, frères et sœurs. Nous sommes ces personnes-là qui sommes appelées à faire partie des 144 000 qui se trouvent finalement sans fraude dans leur bouche et sans faute devant le trône de Dieu, ayant en leur front le nom du Père. Je poursuis la citation. C'est maintenant le temps de se préparer. Il faut se préparer. Pourquoi ? Parce que le troisième ange vient directement préparer un peuple pour la venue, le retour de Jésus. C'est maintenant le temps de se préparer. Jamais le sceau de Dieu ne sera placé sur un front impur. Le sceau de Dieu. Pourquoi ? Parce que nous lisons ici que, au verset 2 du chapitre 7 d'Apocalypse, un ange venait tenant le sceau du Dieu vivant et il cria à grande voix aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer en disant « Ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Le sceau de Dieu, du Dieu vivant. Le sceau du Dieu vivant. Et qu'est-ce qu'ils ont ? Où est-ce qu'ils reçoivent ce sceau ? Dans leur front. Quel est ce que nous voyons qu'ils ont sur leur front dans Apocalypse chapitre 14? Le nom du Père. Ils ont le caractère du Père. Quel est aussi le sceau? Nous lisons à de nombreuses reprises et d'une part et d'autre des témoignages de l'esprit de prophétie que le sceau, la marque d'autorité de Dieu, c'est son sabbat, le sabbat du quatrième commandement. Parce que dans le sabbat, nous lisons il est le créateur, nous avons une description de son domaine, de son royaume, et c'est un sceau parce que cela comporte toutes les caractéristiques d'un sceau royal. Et donc nous savons que le sceau de Dieu vivant, c'est le sabbat. Mais c'est aussi le caractère de Dieu. Parce que nous avons vu qu'ils ont le nom du Père en leur front. Et donc nous lisons que jamais le sceau de Dieu ne sera placé sur un front impur. Qu'est-ce que cela dit? Cela veut dire que jamais un croyant ne sera scellé simplement parce qu'il garde le septième jour. Il faut que le front soit pur. Jamais le sceau de Dieu ne sera placé sur le front de l'ambitieux, de celui qui aime le monde. Il ne sera jamais placé sur le front des hommes et des femmes dont les lèvres sont fausses et le cœur trompeur. Tous ceux qui le recevront, qui recevront ce sceau, devront être sans tache devant Dieu, des candidats pour le ciel. Allez de l'avant, frères et sœurs, dit-elle. Je ne puis en ce moment que vous écrire brièvement sur ces choses, attirant seulement votre attention sur la nécessité de notre préparation, de votre préparation. Sondez les Écritures pour vous-même, afin que vous puissiez comprendre la terrible solennité de l'heure que nous vivons actuellement. Donc nous comprenons, frères et sœurs, quel est le sens de ce lavement de robe, ce blanchissement de nos robes. Ce sont, comme c'est écrit, nos robes de caractère qu'il nous faut laver et blanchir dans le sang de l'agneau. C'est l'orgueil, l'emportement, l'indolence spirituelle, tous nos défauts de caractère et nos mauvaises habitudes qu'il nous faut vaincre pour pouvoir atteindre cette condition-là d'être sans faute devant le trône de Dieu. Et nous lisons également dans le livre « Avec Dieu chaque jour » « Avec Dieu chaque jour » à la page 324 et au paragraphe 2. Et vis-à-vis de ce passage ici, du verset 1 à 4, sur ce scellement, j'aimerais qu'on puisse élargir cela avant de poursuivre. Parce que ce sont des choses que nous voyons autour de nous et nous voulons bien absorber, frères et sœurs. Qu'est-ce qui se trame et pourquoi ces choses se ralentissent et pourquoi elles se précipitent d'un moment à un autre? Je lis. Quatre anges puissants continuent à retenir les quatre vents de la terre, n'est-ce pas? Ce que nous avons lu. Je vis quatre anges qui se tenaient aux quatre coins de la terre, retenant les quatre vents, afin qu'aucun vent ne soufflât ni sur la terre, etc. Quatre anges puissants continuent à retenir les quatre vents de la terre. L'effroyable destruction finale ne doit pas encore se produire. Pas encore. Pas encore. C'est pour cela, frères et sœurs, que nous avons l'impression que les choses vont exploser, et ensuite elles reviennent plus ou moins à la normale. Pardon. Et ensuite, cela s'empire de nouveau, et ensuite, cela revient un peu à la normale, etc. C'est parce que, sans cesse, les quatre anges puissants retiennent les quatre vents. Et nous lisons à d'autres endroits que, par moments, ils lâchent un peu les vents, mais ils les tiennent toujours en laisse. Les accidents qui surviennent sur terre, sur mer, les morts provoquées par les orages, les tempêtes, les accidents de chemin de fer, les guerres qui augmentent sans cesse, les terribles inondations, les tremblements de terre, le déchaînement des vents pousseront les nations à livrer un combat mortel. Cependant, les anges retiendront les quatre vents et empêcheront le pouvoir de Satan de s'exercer dans sa furie jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés au front. Vous voyez ici l'activité de Dieu. Dieu est au contrôle. Dieu tient les rênes. Il dit aux anges de retenir, ils retiennent. Il dit aux anges de relâcher, ils relâchent. Dieu est sur le trône. et nous voulons nous tenir sans faute devant ce trône-là. Mais nous lisons ici, frères et sœurs, que toutes ces calamités, ces accidents, ce terrible taux de mortalité provoqué par les orages, les tempêtes, les accidents de chemin de fer, les guerres qui augmentent sans cesse, les terribles inondations, les tremblements de terre, le déchaînement des vents. Nous voyons tout cela aujourd'hui et plus, frères et sœurs. Eh bien, nous lisons aujourd'hui que ces choses qui se trament à nos yeux presque incrédules parfois, eh bien, ce sont les manifestations du pouvoir de Satan qui cherche à s'exercer dans sa furie. Mais Dieu retient ces choses-là. Les quatre anges puissants de Dieu retiennent ces vents-là jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés au front. Je poursuis. Les anges retiennent les quatre vents représentés par un cheval, furieux qui cherche à s'échapper et à fondre sur la terre pour semer la destruction et la mort tout au long de son passage. Voilà, c'était important, je pense, de bien préciser quelles sont ces choses que nous voyons et quel est leur sens et pourquoi ces choses sont prolongées. C'est parce que Dieu a en vue de purifier ces 144 000 et nous sommes appelés nous-mêmes à, comme nous l'avions lu, juste avant, à, je veux bien prendre les mots exacts, nous sommes appelés à purifier nos robes de caractère à laver nos robes de caractère et à les blanchir dans le sang de l'agneau. Nous sommes appelés à vaincre l'orgueil, la colère, l'indolence spirituelle. C'est pour cela que Dieu retient les vents. Et c'est pour cela que lorsqu'ils sont relâchés, cela reste un cheval furieux en laisse, un chien terrible et féroce en laisse. Parce que Dieu tient la laisse. Pourquoi tient-il la laisse? Parce qu'il a en vue notre purification, notre préparation, notre perfection. Il y a quelque chose maintenant, frères et sœurs, quelque chose qui fait que cela devient plus proche du cœur, cela semble plus personnel. C'est que Dieu, à travers tout cela, eh bien, il nous envoie des aides sur notre sentier vers la perfection. Il nous envoie des aides. Et nous voulons les voir telles quelles. Dans le livre Premiers Écrits, à la page 47 et paragraphe 1. Comment est-ce que Dieu nous aide son peuple, ses candidats, à devenir des vrais candidats pour le ciel, des candidats pour ce nombre suprême des 144 000, de ces grands vainqueurs qui ont lavé leurs robes. Je le lis. Dieu m'a montré qu'il donne à son peuple une coupe amère à boire. Afin de quoi? Afin de le purifier. Oh! Qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu donne comme une aide pour nous mener vers cette pureté-là, cette irréprochabilité-là, cette perfection-là. Il donne à son peuple une coupe amère à boire afin de le purifier. Qu'est-ce que nous lisons de plus? C'est un breuvage désagréable, mais qui le sera bien davantage si nous murmurons. Nous devrons alors en absorber un autre, si le premier n'a pas produit l'effet voulu sur le cœur, et si le second ne réussit pas, il faudra en absorber un autre, jusqu'à ce qu'il produise l'effet désiré, sinon nous resterons impurs. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir l'impression de vous retrouver encore et encore confronté à au même type d'expérience et où quelque chose en vous ressort à chaque fois à travers ces événements ou ce déroulement des choses autour de vous? Eh bien, cela fait partie de cette coupe amère à boire. Elle est amère. C'est un breuvage désagréable, disons-nous. Il est désagréable parce que nous ne le voulons pas naturellement. Mais nous lisons que il nous faut apprendre à discerner ces choses qui sont permises par Dieu et qui nous sont envoyées par la providence de Dieu pour nous, quoi? Pour nous purifier. Et donc, si nous murmurons, c'est-à-dire si nous nous plaignons, si nous ne sommes pas contents, si nous grinchons à cause de cette coupe, ce breuvage amer et désagréable, eh bien, qu'est-ce que nous lisons? Nous devrons alors en absorber un autre. Et c'est pour cela que des fois, les mêmes choses semblent nous arriver, que nous ne comprenons pas, eh bien, elles reviennent une fois après une autre, parce que nous n'avons pas reçu la première fois, comme nous aurions dû recevoir cette coupe. Si le premier n'a pas produit l'effet voulu sur le cœur, alors il y en aura un second, et si le second ne réussit pas, il faudra en absorber un autre breuvage amer, jusqu'à ce qu'il produise l'effet désiré, ou que nous restions impurs. Si nous sommes sincères et que nous désirons aimer Dieu et le servir de tout notre cœur, Dieu continuera à insister, à nous envoyer ce même breuvage qui semble toujours une répétition, jusqu'à ce que nous le recevions avec douceur, avec humilité. Je lis. J'ai vu que cette coupe amère peut être adoucie par la patience, la persévérance et la prière, et qu'elle produira son effet sur le cœur de ceux qui la reçoivent ainsi. Alors Dieu sera honoré et glorifié. Ce n'est pas peu de chose que d'être chrétien, que d'appartenir à Dieu et d'être approuvé par lui. Oui, ce n'est pas peu de chose. Cela représente une coupe amère, et particulièrement pour ce peuple des 144 000. Ce peuple qui vit sous les ondées des messages des trois anges. Ce sont des bénédictions, mais liées à ces bénédictions, il y a cette coupe. Et pour montrer à Dieu que nous lui sommes réellement fidèles, eh bien, nous sommes appelés à recevoir la coupe et à l'adoucir par notre patience, notre persévérance et la prière. Qu'est-ce que cela veut dire, la prière? La coupe est amère, eh bien, il faut que je prie plutôt que de murmurer. Au lieu de m'emporter, d'être orgueilleux, d'être indolent spirituellement face à cette coupe, hein, comme nous l'avons vu avant, eh bien, je lave ma robe de caractère, je la blanchis dans le sang de l'agneau, je prie, je fais preuve de patience. Au lieu de m'impatienter, de faire toutes les choses comme je veux les faire, je patiente, je prie, je persévère dans la prière. Je communie avec Dieu, plutôt que de murmurer et d'être séparé de Dieu. Et si nous faisons ainsi les choses, eh bien, cette coupe, elle produira son effet sur notre cœur. Elle produira son effet sur le cœur de ceux qui la reçoivent ainsi. Et alors Dieu sera honoré et il sera glorifié. Pourquoi? Parce que nous sommes en train d'être purifiés et nous nous approchons du caractère de Jésus qui prenait les difficultés ainsi. Il recevait la coupe amère. N'est-ce pas lui qui le premier a dû boire la coupe amère? Eh bien, lorsque nous sommes confrontés à cette coupe, qui vient souvent à plusieurs reprises, eh bien, puissions-nous la recevoir et nous efforcer avec toute la force que Dieu nous a donnée d'être parmi ces 144 000. Comment? Pas en attendant un miracle, une activité de magie de la part de Dieu, mais en lavant et en blanchissant nos robes de caractère dans le sang de l'agneau. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, je pense à Jésus lorsque je suis appelé à souffrir des choses insignifiantes par rapport à ce qu'il a souffert, celle qu'il a souferte. Et donc, je lave ma robe dans le sang de Jésus, dans sa vie. Je plonge mes affections, mes ambitions, mes espérances dans la vie de Jésus, dans cette vie de renoncement. Je me noie dans son amour, plutôt que de me noyer, de me morfondre dans des murmures qui sont stériles et qui me sépareront de lui. C'est ce à quoi nous sommes appelés, frères et sœurs, de recevoir cette coupe amère. Pour le monde, cette coupe amère, elle vient comme un signe destructeur. Mais pour nous, si nous la recevons, elle sera le présage d'un avenir glorieux avec le roi de gloire. Si nous recevons cette coupe et que nous l'adoucissons avec la patience, la persévérance et la prière. Nous allons dans Jacques chapitre 1 où nous avons ce principe exprimé de manière très concise, telle que l'est toujours la parole de Dieu. Jacques chapitre 1 verset 2 à 4. Frères, regardez comme le sujet d'une parfaite joie. Une parfaite joie, les diverses tentations qui vous arrivent. Ce sont des tentations, c'est une coupe amère. Vous voyez, il faut comprendre que ces choses-là ont diverses connotations et peuvent être décrites par divers noms. C'est une coupe amère. Nous sommes tentés amèrement, comme Jésus l'était. Tentés de faire le mal, tentés de faire ce qui n'est pas bien. Cela devient une coupe, c'est une coupe, et nous pouvons l'adoucir en la regardant comme le sujet d'une parfaite joie. Regardez comme le sujet d'une parfaite joie les diverses tentations qui vous arrivent. Pourquoi ? Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, nous adoucissons cette coupe par la patience, comme nous avons vu, la patience, la persévérance et la prière. Mais que la patience, notons bien, mais que la patience est une efficacité parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant en rien, sans faute, parfait, irréprochable, sans fraude dans leur bouche. Voilà ce que cette déclaration met à notre esprit, que la patience est une efficacité parfaite. Parce que si ma patience est imparfaite, si je mets fin à ma patience brusquement, avant la fin de l'épreuve, eh bien ma patience n'a pas été rendue parfaite. Je n'ai pas mené à bien cette patience. Et il me faudra retraverser l'épreuve encore une fois. Une fois, deux fois, trois fois. Mais non. Non. Que la patience est une efficacité parfaite. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut que je persévère dans la patience. Que je prie. Seulement en priant, en communion avec Dieu, puis-je persévérer dans la patience. Parce que sinon, je vais arriver à court de patience. Je vais dire, oh non, là, c'est terminé. Mais non, non, si je prie, la patience aura une efficacité parfaite en moi. Et Dieu sera honoré et glorifié par cela. Il dira, tu m'as rendu fier, mon fils, tu m'as rendu fier, honoré. Tu as été patient. C'est d'ailleurs pour cela que dans Apocalypse chapitre 14, verset 12, nous lisons, vis-à-vis de ce peuple glorieux, ces 144 000, voici, c'est ici la patience des saints. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ils ne lâchent pas prise face à la coupe amère. Ils tiennent bon. Ils prient. La prière rendra la coupe amère plus douce. Elle l'adoucira. Elle restera amère, mais elle peut l'adoucir. C'est comme si vous buvez un breuvage qui a un mauvais goût. Eh bien, si vous mettez quelque chose, je sais pas, peut-être du miel, cela adoucira. Eh bien, nous voulons mettre le miel de la patience, de la prière, de la persévérance pour adoucir cette coupe de la tentation et de l'épreuve. que la patience est une efficacité parfaite afin que vous soyez parfait et accompli, ne manquant en rien. Quoi? Sans faute devant le trône de Dieu. Que vous faisiez partie des 144 000. Les 144 000 humiliés et purifiés. Nous nous humilions devant Dieu. Plutôt que d'être hautains et de faire preuve d'orgueil, non, nous vainquons l'orgueil. Nous obtenons la victoire sur l'indolence spirituelle. Et qu'est-ce que c'était d'autre? Que j'oublie pas. Sur la colère, l'emportement, nous ne nous emportons pas, mais nous obtenons la victoire sur la colère, sur l'orgueil, sur l'indolence spirituelle. Et nous parviendrons à la perfection. Et j'aimerais conclure notre méditation ici par ces pensées-là. Cette coupe amère dont nous parlions, qui se révèle à nous sous différentes formes, eh bien, elle est destinée à faire ressortir les choses à l'intérieur de nous qui sont contraires au caractère de l'humble et doux Jésus. Et Dieu permet ces révélations pour faire naître en nous le désir de devenir semblable à Christ, à celui dont nous professons le nom, mais auquel nous ressemblons si souvent, si peu. Dieu permet ces révélations pour nous faire réaliser combien nous avons besoin de lui à chaque instant, et pour nous amener à travers l'expérience de Pierre à une parfaite conversion. J'aimerais lire ce merveilleux exemple qui encourage nos cœurs. Dans le livre Les Paraboles de Jésus, à la page 127 et au paragraphe 2 et suivant. L'expérience de l'apôtre Pierre renferme une leçon qui s'applique à ces deux catégories de personnes, le pharisien et le publicain. Au début, quand il fut choisi pour être disciple, il se croyait fort. De même que le pharisien, il ne se voyait pas comme le reste des hommes. Lorsque Jésus, avant d'être trahi, eut déclaré à ses disciples « Je vous serai cette nuit à tous une occasion de chute », Pierre, sûr de lui, répliqua « Quand tous seraient scandalisés, je ne le serai pas. » Pierre était sûr de lui. Pierre avait l'impression d'être plus fort que les autres, qu'il se croyait fort. Il n'avait pas conscience du danger qu'il courait. Il se laissait abuser par la confiance qu'il avait en ses propres forces. Il se croyait capable de repousser la tentation. Mais au moment de la coupe amère, quelques heures plus tard, il renia son maître avec jurons et imprécations. Lorsque le chant du coq vint lui rappeler les paroles de Christ, Pierre, surpris et écœuré de son acte, se tourna et regarda son maître. Au même moment, Jésus posa sur son disciple un regard où se lisait à la fois la tristesse, la compassion et l'amour. Se voyant alors tel qu'il était, Pierre sortit et pleura amèrement. Ce regard du Sauveur lui avait brisé le cœur. Pierre était arrivé à un tournant de son expérience religieuse et il se repentit profondément de son péché. Dans sa contrition, il ressemblait au publicain et, comme ce dernier, il trouva miséricorde. Le regard de Jésus lui donnait la certitude du pardon. Sa propre suffisance avait maintenant disparu et il ne se hasarda jamais plus à des déclarations aussi présomptueuses. Après sa résurrection, Christ le mit à l'épreuve par trois fois. « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Pierre ne s'éleva plus au-dessus de ses frères. Il s'en remit alors à celui qui seul pouvait lire en son cœur. « Seigneur, tu connais toutes choses, dit-il. Tu sais que je t'aime. » Et cela nous oriente vers les paroles de 1 Pierre, chapitre 5. 1 Pierre, chapitre 5, verset 6. Pardon, 1 Pierre, chapitre 5, versets 5 et 6. « De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens et vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité. » Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève quand il en sera temps. Oui, c'était les paroles mêmes de l'apôtre Pierre, après qu'il ait lui-même traversé ses expériences de terrible humiliation. Et nous aussi, frères et sœurs, étant appelés à traverser ces expériences de cette coupe amère qu'il nous faut accepter de boire, eh bien, nous voulons aussi traverser, comme l'apôtre Pierre, cette expérience où notre propre suffisance disparaît et nous abandonnons notre orgueil. Nous vainquons notre indolence spirituelle et notre colère. Et nous nous humilions sous la puissante main de Dieu. Nous nous revêtons d'humilité et nous lavons nos robes dans le sang de l'agneau. C'est notre appel pour faire partie de ces 144 000-là qui sont sans faute devant le trône de Dieu. Puisse le Seigneur élargir notre compréhension de ces choses-là, de ce sujet-là vital, pour orienter l'activité de nos pensées. À chaque instant que nous puissions boire cette coupe qui est maintenant continue, qui sera maintenant continue. Si nous voulons bien voir les choses telles qu'elles nous sont données de voir à travers les yeux de Dieu, eh bien, notre vie ne sera pas toute rose. Parce que ceux qui sortent de cette période-là, de cette fin-là, on nous dit qu'ils sortent, qu'ils viennent de la grande tribulation. Eh bien, si nous la regardons telle qu'elle est vraiment, cette existence ici, sur cette terre, de préparation, elle sera une tribulation. Mais nous pouvons adoucir cette coupe amère. Et puissions-nous l'adoucir et persévérer dans la patience et la prière. C'est ma prière que nous puissions ensemble marcher sur ce sentier-là et communier avec celui qui a le premier bu à cette coupe amère. Au nom de Jésus, c'est ma prière. Amen.